pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Matthieu. Texte de la liturgie catholique pour le 24e dimanche. Alors Pierre s'approche et dit à Jésus :
Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et je lui remettrai ? Jusqu'à 7 fois ?
Jésus lui dit :
Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. C'est pourquoi le règne de Dieu est semblable à quelqu'un qui est roi et qui veut régler les comptes avec ses serviteurs. Alors qu'il commence à régler, on lui amène un débiteur de 1000 talents. Comme il n'a pas de quoi restituer, le Seigneur ordonne qu'il soit vendu, lui, sa femme et ses enfants et tout ce qu'il a pour qu'on restitue. Le serviteur tombe à ses pieds, se prosterne et il lui dit « Fais preuve de patience envers moi et je te restituerai tout. » Ému jusqu'aux entrailles, le Seigneur de ce serviteur le délie et lui remet sa créance. En sortant, ce serviteur trouve un de ses collègues qui lui doit 100 deniers. Se saisissant de lui à l'étrangler, il dit « Restitue, étant donné ce que tu dois. » Tombant à ses pieds, son collègue le supplie et dit « Fais preuve de patience envers moi et je te restituerai. » Mais lui ne veut pas et il s'en va le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait restitué le tout, le dû. Ses collègues voient ce qui est arrivé. Ils en sont fort attristés. Ils vont expliquer à leur Seigneur tout ce qui est arrivé. Alors, son Seigneur l'appelle auprès de lui et lui dit « Mauvais serviteur, je t'ai remis toute cette dette puisque tu m'as supplié. Ne fallait-il pas que toi aussi tu sois miséricordieux avec ton collègue comme moi j'ai été miséricordieux avec toi ?» Son Seigneur en colère le livre au tortionnaire jusqu'à ce qu'il ait restitué tout son dû. Ainsi, mon Père du ciel fera aussi pour vous si vous ne remettez pas chacun à son frère de tout votre cœur. Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. Voici une parabole quelque peu intrigante. En effet, Jésus nous parle de pardon, du pardon infini de Dieu, et l'histoire se termine par la vision de tortionnaire impitoyable.
Alors regardons d'abord où se trouve notre texte. Eh bien, il est dans l'Évangile de Matthieu, à la fin d'un ensemble qu'on appelle souvent le discours sur l'Église. Il s'agit d'enseignements de Jésus qui ont été rassemblés pour éclairer la façon dont les communautés des disciples de Jésus doivent vivre. Nous avons vu la semaine dernière le processus à suivre quand un membre de la communauté commet une faute grave et publique, un geste où toute la communauté se trouve comme concernée. Par exemple, quelqu'un qui vit avec la femme de son père, par exemple, ou bien quelqu'un qui continue à aller au temple païen. Aujourd'hui, il s'agit d'une faute commise envers un membre particulier. Et donc, l'enseignement sera celui du devoir pour chacun, pour chacune, de pardonner les offenses qui lui sont faites. Mais évoquons comment les choses se présentaient à l'époque de Jésus. Dans les écoles de rabbins, on avait codifié, établi des conditions pour le pardon. Ainsi, le rabbi José disait
« Si quelqu'un pêche 1, 2 ou 3 fois, on lui pardonne. » Mais non pas s'il pêche 4 fois.
Cependant, la plupart des rabbis disaient que 4 pardons envers le prochain étaient acceptables. Il y en avait même qui allaient jusqu'à 5 pardons envers un frère, mais ils limitaient à un seul le pardon envers l'épouse. Simon-Pierre demande donc au rabbi Jésus ce qu'il recommande. Et il lui suggère 7 pardons, chiffre qui signifie beaucoup. Pierre se montre très généreux. Mais en multipliant le chiffre de Pierre par 10 et par 7, Eh bien, Jésus rend ce chiffre illimité. Il enseigne que le pardon ne peut être restreint par aucune tarification. De fait, Jésus retourne, inverse, le texte de la Genèse qui rendait la vengeance illimitée.
Oui, Caïn sera vengé 7 fois, mais Lamech 70 fois 7 fois.
Le premier mouvement de celui qui a subi un tort, une injure, est en effet le plus souvent de se venger. Il veut rendre le coup et faire à l'autre, le mal qu'il lui a fait subir. Dans le livre de l'Exode, il y avait une loi qu'on appelle celle du talion, œil pour œil, dent pour dent, qui avait pour but de limiter cette vengeance que la Bible avait dit illimitée. Jésus s'inspire plutôt, lui, de textes de prophètes, des prophètes comme Isaïe. Isaïe, en effet, décrit l'attitude de Dieu par rapport à son peuple, qu'il considère comme une épouse. Écoutons-le.
Un bref instant, je t'avais abandonné, mais sans relâche, avec tendresse, je vais te rassembler. Avec une amitié sans fin, je te manifeste ma tendresse, dit le Seigneur, qui te rachète.
Oui, pour Jésus, l'amitié du Père qui est Dieu est sans fin et sans limite, et c'est ce qu'il va illustrer par la parabole du serviteur sans miséricorde. Jésus a dû prendre cette histoire dans les coutumes de son époque. Il s'agit en effet d'un chef oriental, ou bien d'un romain qui gouverne un pays colonisé. Remarquons que le terme « serviteur » dans le langage du temps pouvait aussi bien désigner le serviteur esclave que le haut fonctionnaire. Et nous avons d'ailleurs, nous aussi aujourd'hui, des choses de ce genre. Nous donnons à certains hauts fonctionnaires le titre de ministre. Or, le mot ministre, eh bien, c'est un mot qui vient du latin ministère, qui veut dire serviteur. On parle d'ailleurs des grands serviteurs de l'État. Le ministre, le serviteur dont parle la parabole, est certainement un ministre important. Il a peut-être la responsabilité d'une des provinces du royaume. On sait que dans l'Empire romain, les hauts fonctionnaires pouvaient emprunter des sommes considérables à la trésorerie de l'Empire. Et ce ministre avait en effet une dette énorme, 10 000 talents. À l'époque de Jésus, cela représentait 50 fois la somme de tous les impôts annuels des provinces de Galilée et de Pérée. C'était l'équivalent de ce qu'il fallait pour faire vivre une famille pendant 30 millions de jours. Dans le cas d'une forte dette, on avait coutume de récupérer une partie de l'argent en vendant le débiteur ainsi que sa femme et ses enfants. Mais devant cette somme, la vente d'un esclave ne procurait à l'époque qu'entre 500 et 2000 deniers. C'était donc loin de rembourser les 10 000 talents, c'est-à-dire les 100 millions de deniers que l'homme devait à son maître. Alors le roi va être sensible à la détresse de son ministre et il lui remet toute sa dette.
Quelle leçon veut donner cette histoire?
Bien devant, peut-être qu'elle veut nous dire que devant le Créateur, nous sommes des débiteurs insolvables qui ne pourront jamais rembourser leur dette envers Dieu. Et cela est vrai non pas parce que nous serions des grands pécheurs devant Dieu, mais parce que devant le don de la vie, devant le don de l'amour, nous sommes toujours en dette. En effet, l'amour ne peut être qu'un don gratuit que rien ne peut racheter. L'amour n'appelle que la reconnaissance, que le merci. Vouloir acheter l'amour de quelqu'un ou de Dieu, c'est, on le sait, empêcher cette gratuité de l'amour et donc empêcher l'amour d'exister. Mais la démesure dans la parabole n'est pas d'abord du côté de notre dette, elle se trouve surtout du côté de Dieu, de son amour, de sa tendresse. Illustrons cela par une prière de Grégoire de Narek du Xe siècle.
Nombreuses sont mes dettes et nul ne peut les compter. Cependant, elles ne sont pas si étonnantes que ta miséricorde. Multiples sont mes péchés, mais ils sont toujours moindres comparés à ton pardon.
Un exemple qu'on tirera de l'univers peut peut-être nous aider à illustrer cette démesure. On sait que la vitesse de la lumière est évaluée et calculée à 300 000 km à la seconde. Ainsi, la distance de la Terre au Soleil est de 8 minutes-lumière. Alors cela se comprend encore à peu près. Mais la lumière d'Andromède met plus de 2 millions d'années-lumière à nous parvenir. Alors de telles distances sont tellement démesurées par rapport à notre expérience qu'elles sont difficiles à imaginer. Eh bien, ainsi en est-il de la miséricorde de Dieu. Il n'est plus question ici de mesure, nous frôlons l'insaisissable mystère de l'amour de Dieu. L'attitude de Dieu, nous dit Jésus, ne peut pas se baser sur la justice. Dieu, parce qu'il n'est qu'amour, ne peut qu'être miséricordieux. Et donc son attitude est avant tout miséricorde. La justice, elle, elle mesure, elle se mesure. La miséricorde, au contraire, est sans mesure. Le maître, en effet, n'accorde pas un délai de paiement. Il fait la remise totale de la dette. Dans le cœur de Dieu, le pardon ne connaît pas d'attente ni de demi-mesure. Il est immédiat, il est total. En Dieu, il n'y a pas de pardon du bout des lèvres, car ce pardon vient de l'amour infini de son cœur. Le pardon de Dieu est grâce, entière gratuité. Oh, même si nous voulons toujours rembourser, remettre ce que nous devons, prends patience, je te rembourserai tout, dit le serviteur. Dans le régime de l'amour, il ne saurait être question de remboursement. On ne peut pas marchander le pardon, c'est une contradiction. Le pardon est un geste d'amour, il ne s'achète pas, il ne peut être que pur don. Au cœur même du message de Jésus, il y a cette certitude. Le temps de l'histoire est comme une grande année sabbatique où Dieu fait la remise des dettes. Oui, l'histoire pour Jésus n'est pas le temps du jugement et du châtiment. Jésus ne parlera que du jugement et du châtiment, comme d'un événement de la fin des temps.
Et pourtant, il semble que la parabole parle de conditions pour être pardonné. Le haut fonctionnaire, qui ne remet pas la dette minime de l'un de ses confrères, se voit livré par son maître au tortionnaire jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé.
Alors disons que la torture était en effet pratiquée alors par les gouverneurs des provinces lorsqu'ils ne parvenaient pas à se faire payer les impôts qui étaient dus au trésor public. Ici, la dette qui est due par ce confrère est minime, 100 deniers, soit l'équivalent du salaire de 100 journées. C'est 600 000 fois moins que la dette qui est due au roi par le premier serviteur. Alors ces chiffres de 100 deniers veulent peut-être nous dire que les dettes entre humains sont limitées, qu'elles sont donc pardonnables, que le pardon est possible, qu'il est à notre mesure humaine. Écoutons ce que nous dit la Torah.
N'aie aucune pensée de haine contre ton frère. Ne te venge pas et ne sois pas rancunier à l'égard des fils de ton peuple. C'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Dans un autre livre de la Bible, le livre de l'Ecclésiastique, le pardon est aussi vu comme une certaine condition du pardon divin.
Remets à ton prochain ses torts, et alors, à ta prière, tes péchés seront pardonnés. Si quelqu'un nourrit de la colère contre son prochain, comment peut-il demander au Seigneur la guérison? Il n'a nulle miséricorde pour son semblable, comment peut-il prier pour ses propres péchés? C'est lui, qui n'est qu'humain, entretient sa rancune, qui lui obtiendra le pardon de ses péchés.
Mais c'est aussi d'ailleurs ce que Jésus nous fait dire dans le Notre Père. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous.
Et l'évangile poursuit, « En effet, si vous pardonnez aux humains leurs fautes, votre Père du ciel vous pardonnera à vous aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux humains, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. »
Pourquoi Dieu met-il cette condition à son pardon? Cela n'est-il pas contradictoire avec ce que nous avons dit d'un pardon qui est totalement une grâce?
Alors pour comprendre le comportement de Dieu, pour tâcher de le comprendre, prenons une comparaison dans le domaine de la physique. L'électricité, c'est un courant qui circule entre deux pôles, deux extrémités, un positif et un négatif. Lorsque l'on place un coupe-circuit entre ces deux pôles, le courant cesse de passer. Et en cessant de circuler, le courant n'existe plus. Eh bien, il en est de même, pourrait-on dire, pour le pardon, qui est un courant d'amour qui vient de Dieu et qui passe en nous pour nous guérir et nous rétablir dans l'amour. Le pardon circule entre Dieu et nous, mais à condition que nous ne mettions pas de coupe-circuit. Et le coupe-circuit, ben, c'est de refuser de pardonner à son prochain. Oui, là, lorsque nous refusons de pardonner, nous empêchons l'amour de circuler, nous empêchons le pardon d'être ce courant d'amour entre Dieu et nous. Nous nous empêchons d'être nous-mêmes pardonnés. Refuser de pardonner à son prochain, c'est faire taire l'amour, c'est l'expulser. Et comment celui qui expulse l'amour de son cœur pourrait-il encore prétendre vivre de l'amour qui vient de Dieu? D'une certaine manière, ce n'est pas Dieu qui refuse de pardonner à celui qui refuse le pardon à son prochain. C'est celui qui refuse le pardon qui s'exclut de l'amour de Dieu. Si nous limitons le pardon en le refusant à tel ou tel de nos frères ou de nos sœurs, nous chassons l'amour gratuit de notre cœur et il n'y a plus en nous le véritable amour, la bonté inconditionnelle. Le pardon accordé au prochain n'achète donc pas le pardon de Dieu. Redisons-le, le pardon ne s'achète pas et ne se mérite pas. Mais pardonner au prochain, c'est vivre l'amour gratuit, et ainsi, c'est témoigner qu'on a accueilli l'amour de Dieu et qu'on en vit. Au 7e siècle, Isaac le Syrien donnait ce conseil à celui qui l'accompagnait dans la vie spirituelle.
Voici, mon fils, un commandement que je te donne. Que la miséricorde l'emporte toujours dans ta balance, jusqu'au moment où tu sentiras en toi la miséricorde que Dieu éprouve envers le monde. Quand l'être humain reconnaît-il que son cœur a atteint la pureté? Lorsqu'il considère tous les humains comme bons, sans qu'aucun lui apparaisse impur et souillé.
Oui, selon l'Évangile, la véritable pureté, c'est d'être miséricordieux envers tout prochain, quel qu'il soit, de cette miséricorde qui est dans le cœur de Dieu.
Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir miséricorde pour ton compagnon, comme moi-même, j'ai eu miséricorde pour toi?
Remarquons bien ce qui est demandé au serviteur. Il lui est demandé d'avoir miséricorde. On traduit souvent « avoir pitié ». Le dictionnaire définit le mot pitié comme un sentiment qui porte à plaindre ou à compatir. Eh bien, le mot hébreu ou araméen employé ici par Jésus n'est pas le sentiment qui porte à plaindre. C'est le sentiment qui porte à compatir au sens précis de ce mot qui veut dire souffrir avec l'autre. Ce qui est demandé n'est pas de pardonner au sens d'excuser quelqu'un du tort qu'il nous a fait. Ce qui est demandé, c'est de partager sa souffrance avec d'autant plus d'amour que celle-ci, cette souffrance, est plus grande. Partager sa souffrance, car celui qui fait du tort à son prochain le fait le plus souvent parce qu'il souffre. Une amie me disait « Je ne vois jamais des gens méchants. Je trouve toujours une explication aux gestes de ceux qui font le mal. » Eh bien, vivre le pardon, c'est entrer dans le cœur de Dieu et vivre sa miséricorde. Pour Dieu, il nous invite à l'imiter. Le pardon est un grand geste d'amour qui s'efforce de guérir l'autre, de le remettre dans l'amour, de lui redonner vie, de le recréer. Voilà ce qu'est en vérité le pardon, une recréation, une guérison. Et le sentiment de miséricorde est un sentiment qui doit partir du plus profond de l'être. Dans la langue juive, on dit que ce sentiment jaillit des entrailles. Et André Chouraki, un juif exégète, a tenté de rendre cette idée en traduisant être miséricordieux par un mot qu'il a lui-même inventé, matricier, du mot matrice. Oui, faire miséricorde à quelqu'un, c'est le matricier, le prendre en soi, comme la mère porte en son sein l'enfant auquel elle va transmettre la vie. Pardonner, on pourrait dire que c'est devenir une mère ou un père pour celui, pour celle à qui l'on pardonne. C'est d'être un peu comme Dieu. Tant qu'on n'a pas pardonné à quelqu'un, on ne peut pas encore dire qu'on l'aime. Et ce pardon va nous ouvrir le chemin de la joie éternelle. Alors que le refus de pardonner, lui au contraire, nous mène dans la souffrance.
Son Seigneur en colère le livre tortionnaire jusqu'à ce qu'il ait restitué tout son dû. Ainsi mon Père du ciel fera aussi pour vous si vous ne remettez pas à chacun à son frère de tout votre cœur.
Oh, bien sûr, il n'est pas question pour Dieu de livrer au tortionnaire, mais Jésus veut souligner que la joie fera défaut pour toujours à celui qui se refuse à vivre le pardon. Celui-là se sera donné lui-même un malheur sans fin. Et nous expérimentons déjà en cette vie quelque chose de cette souffrance, lorsque nous laissons place au ressentiment. Alors l'amertume, la tristesse envahissent notre cœur, nous referment sur nous-mêmes, nous ferment à l'amour. Au contraire, celui qui aura pardonné avec miséricorde, celui-là se placera en dehors de tout contexte de jugement, comme l'exprime si bien la lettre de Jacques.
Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas eu de miséricorde. Mais la miséricorde se moque du jugement. Ce pardon demandé par Jésus est-il réaliste?
Eh bien, si la communauté chrétienne est une vraie communauté, alors elle est le lieu d'apprentissage du pardon. C'est d'ailleurs le titre d'un livre de Jean Vanier, « Communauté, lieu de la fête et du pardon ». Et l'apôtre Paul écrivait en ce sens aux chrétiens de ces communautés.
Pardonnez-vous mutuellement comme le Seigneur vous a pardonné en Christ. Si l'un a un grief contre l'autre, comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même.
L'Église de Jésus n'existera vraiment que là où se vivra le pardon fraternel.
Est-ce vraiment ce visage que donne aujourd'hui notre Église?
On peut s'interroger, bien sûr, d'autant plus que ce témoignage du pardon en est un que le monde attend avec urgence. Oh, dans cette communauté ecclésiale, il ne s'agit pas de vouloir à tout prix éviter les conflits en gommant les différences. Mais il s'agit de vivre les divergences dans le respect des uns et des autres, et de vivre la miséricorde les uns envers les autres, nous portant mutuellement dans nos faiblesses et nos maladresses. Dominique, fondateur des Dominicains, disait à ses frères « Soyez des sanctuaires de miséricorde ». Et François d'Assise donnait ce conseil aux siens.
On reconnaîtra que tu aimes le Seigneur si n'importe qui au monde, après avoir péché contre toi autant qu'il est possible de pécher, peut rencontrer ton regard, demander ton pardon et te quitter pardonné.
Pour vivre ce pardon miséricordieux, il faut que l'Église locale soit une communauté réelle et pour cela, elle doit être à taille de fraternité. Un curé ami disait « Le signe que la paroisse est une communauté, c'est qu'il y a des chicanes. » Ben oui, parce que là où chacun ignore les autres, il n'y a pas de conflit. Mais il faut qu'il y ait des chicanes suivies de pardon. Et la difficulté du pardon viendra souvent du fait que personne n'est vraiment pur et innocent. Les torts sont toujours partagés. Le pardon à donner sera sans doute impossible tant qu'on ne se sera pas pardonné à soi-même. Ou plutôt, tant qu'on n'aura pas accepté de chercher le pardon auprès de quelqu'un qui nous aime d'un amour assez fort qu'il peut nous guérir. En effet, on ne peut vraiment se pardonner à soi-même, puisque le fait d'avoir péché manifeste justement la faiblesse de notre amour. Ce quelqu'un dont l'amour est toujours assez fort, c'est Dieu, le Père tout aimant. C'est aussi Jésus, le frère et l'ami, toujours à notre écoute. Oh certes, il existe des offenses que notre sensibilité a du mal à pardonner. Certaines humiliations, certaines trahisons qui ont produit en nous des blessures trop vives. L'important est alors, à la fois, de reconnaître notre incapacité psychologique pour le moment à pardonner, et en même temps, de demander à Dieu la force du pardon. Oui, Père, pour le moment, je ne saurais pas pardonner, mais je veux de toute ma volonté profonde arriver un jour à dire ce pardon. Alors aide-moi, guéris-moi, fais-moi grandir dans la vérité de l'amour. Ne permets pas que mon cœur se ferme à jamais au pardon. Et Dieu nous exaucera, mais cela se fera avec nous, et donc avec le temps. Car Dieu ne contraint pas notre sensibilité, il l'éduque par son amour. C'est un peu ce qu'exprime cette réflexion par laquelle nous terminerons de Caroline Franqueur.
Le pardon est une dimension de l'amour qui nécessite l'accueil d'une souffrance qui va nous chercher au plus profond de notre être. Arriver à accorder le pardon, c'est sans doute d'abord accepter d'entrer dans un cheminement psychologique qui nous fera voir tout ce que l'on est au-delà des masques. Plus l'origine de la douleur est grande et parfois très subtile, plus le chemin menant au pardon sera long et difficile. Peut-être ne sera-t-il jamais atteint de notre vivant. Pourquoi s'en culpabiliser? À mesure que l'on cueille les fruits de la bonté, il devient plus aisé de distinguer l'ivraie et de s'en débarrasser. À quelqu'un à qui on n'a jamais accordé le pardon, peut-on demander d'être miséricordieux? Peut-on lui demander d'aimer s'il n'a toujours expérimenté que la haine et la méfiance? C'est alors la bonté même de Dieu qui pardonnera par-delà notre faiblesse. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750. Vous pouvez aussi nous trouver sur Internet, vous pouvez vous abonner aux cassettes et aux feuillets. Téléphonez-nous, nous vous donnerons tous les renseignements.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine. Ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.
Thank you.